tous et à toutes, bienvenue dans cette 5e saison de La Chose Commune, qui débute en grande pompe, si l'on peut se permettre l'expression, avec un reportage sur le convoi de l'eau contre les méga-bassines. Partant le vendredi 18 août de Lezay, près de Sainte-Soline, le convoi de l'eau s'est arrêté à Blois le 23 août, et Extinction Rébellion était présent pour accueillir les centaines de cyclistes. Applaudis par les passants, les vélos et tracteurs du convoi de l'eau ont déjeuné à la Creusie. Il et elle nous racontent une autre histoire que celle de Sainte-Soline.
Alors, attends, il y a un bout de bois qui est parti. Non.
Et il descend là. Elle descend, c'est chiant là. Il faudrait peut-être qu'elle soit moins tirée. Ah, c'est bon, c'est bon. Elle dit que c'est bon.
Vous avez des nouvelles comment du convoi ?
Par les réseaux sociaux, on a des boucles signal et ma thermost. Après, c'est... Enfin, on en reçoit au compte-gouttes, quoi. C'est pas encore... On les suit pas en temps réel.
Et là, qu'est-ce que tu es en train de faire ?
Bah là, on accroche la banderole pour les accueillir. C'est un petit message pour leur souhaiter la bienvenue à Blois. Donc voilà, le vieux pont de Blois. Donc voilà, c'est une banderole qu'on avait déjà utilisée, je crois, pour quand on avait fait un rassemblement à la préfecture en soutien au soulèvement de la terre. Donc voilà, on recycle.
Bien savoir ce qu'il y a écrit dessus. Hein.
Qu'est-ce qu'il y a écrit dessus ?
L'orage gronde, celui-là, je crois. L'eau, avec jeu de mots. Rage, gronde.
EAU.
Je sais pas à quel moment ils interviennent les soulèvements. Enfin, nous vraiment c'est Extinction Rébellion à Blois.
Ouais. Je pense que XR, dans le convoi de l'eau, il y a des personnes des soulèvements, pardon, qui organisent aussi. Après, je sais pas si c'est vraiment une association à part entière. Hein. Je pense que c'est plutôt des personnes qui sont d'un peu partout, des assos et qui se sont regroupées pour construire quelque chose, quoi. L'idée, c'était de pouvoir reproposer quelque chose de beaucoup plus pacifique pour changer un petit peu, comme ça a beaucoup débordé au méga-bassine du côté policier. Là, il y avait vraiment quelque chose, une attention particulière pour pas que ça déborde, quoi. Et que ça puisse, que les médias puissent parler de ça autrement que par des gros buzz et de violence, etc. Donc je crois que c'était un peu ça l'idée.
Rien ne pourra nous arrêter. Ça est un appel. Merci, merci.
Bonjour le microphone.
Est-ce que tu peux te présenter, présenter oui. Tout le monde ?
Eh bien, on est une famille de trois et on vient de faire un grand voyage à vélo. Et puis là, on rejoint le cortège, quoi. Et voilà, on est en reconversion tous les deux pour être paysans. Donc, ces questions-là nous parlent beaucoup. On a su qu'il y avait le convoi parce qu'on était à Notre-Dame-des-Landes et puis on a eu ces infos par ce biais-là et par la suite on s'est inscrit sur la newsletter et puis ensuite on s'est simplement inscrit et là à partir de là tout a été assez simple, on a reçu un mail et par la suite on a reçu toutes les infos, un gros guide qui nous permet aussi de savoir ce qu'on doit apporter, ce qu'on doit faire, etc. Les bonnes pratiques à mettre en œuvre pendant ce trajet. Et puis ensuite, on a un fil Telegram sur lequel ben, il y a toutes les infos qui sont mises à jour, les heures de rendez-vous, les lieux de rendez-vous, etc.
Et du coup, même votre fille participe au convoi.
Bah ouais, on ne pouvait pas la laisser comme ça dans un placard. Et puis, alors ouais, on joue le jeu avec elle parce que ben, ça va être aussi l'une des premières concernées. Je parlais du fait qu'on allait, ça nous concernait en tant que paysans boulangers, mais aussi pour notre fille, enfin je crois surtout pour notre fille. Et voilà, elle est la première concernée, on est aux toilettes sèches à 200%, on fait super gaffe à notre eau tous les jours, et elle va aller scander elle aussi tous les slogans qu'on lui a appris pendant le voyage. Ouais, on espère vraiment que ce soit hyper familial, et enfin, on y croit en fait, quoi. Mais là, on le rejoint qu'aujourd'hui, donc tout va être une surprise, quoi. Donc on est hyper impatients.
Comment tu t'appelles ?
Marcia.
Et Marcia, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui avec tes parents ?
En fait, on est là pour faire ça, pour lire dans les histoires qui cocottent.
C'est quoi les histoires qui cocottent ?
Bah, c'est là où il y a le putois.
Et la rivière. Et le putois, il s'empare de la rivière. Alors que l'eau, c'est pour qui ?
C'est pour tout le monde.
C'est pour tout le monde.
C'est un livre...
Oui, c'est une histoire des petites poules, en fait, qui raconte que le putois, il s'empare de la rivière pour faire des teintures. Et donc, les petites poules, elles vont lui dire que non, l'eau, c'est à tout le monde, on ne peut pas s'en emparer et faire ce qu'on veut avec.
Les toilettes mobiles, les toilettes sèches, pour que tout le monde, voilà.
Donc,
un petit luxe.
C'est une petite carriole qui suit le convoi.
Voilà. Petite carriole avec un PMR, toilette PMR, des urinoirs, voilà, on peut... Et puis en plus, sur le site, il y a aussi des toilettes, donc voilà, pour accueillir dans les meilleures conditions.
Et tu es le responsable...
Je suis responsable de rien du tout, moi. On le fait au mieux. Tout le monde est responsable chez nous. Tout le monde est responsable en fait. Chacun fait son truc, après tu concertes avec les autres, mais on fait tout pour bien faire pour tout le monde, quoi.
Nous, on a juste une petite tâche, c'est qu'on récupère les bagages de ceux qui vont quitter le convoi à midi pour rejoindre la gare de Blois. Et ceux qui vont arriver de la gare de Blois, on va prendre leurs bagages pour les emmener au bivouac de ce soir. Mais sinon, l'organisation du cortège, il est escorté par la gendarmerie en début et fin de convoi. Et sinon, il est organisé en pelotons. Donc il y a 4 pelotons avec des codes couleurs. Et les cyclistes ont un code couleur. Ils suivent leur peloton avec une bétaillère dans laquelle il y a leur tente et leur sac pour le bivouac de ce soir. Dans le convoi, il y a aussi une bétaillère pour les vélos qui seront abîmés en cours de route. On mettra leurs vélos dans le camion bétaillère. Et les personnes pourront aller dans une roulotte pour pouvoir continuer le convoi sans être à vélo. Il y a aussi des infirmiers et des médecins qui sont à vélo avec leur sac de secouristes et un véhicule médic avec du matériel médical plus important. Il y a également la cantine qui va arriver là pour pouvoir nourrir tout le monde et des tracteurs avec des tonnes à eau pour que tout le monde puisse avoir de l'eau et puisse remplir ses gourdes pour la pause du déjeuner. Bah, cette étape, c'est la plus longue aujourd'hui. Donc il y a 70 km, il fait très chaud, c'est une des journées les plus chaudes de la semaine. Donc on a un peu avancé le départ ce matin pour essayer de souffrir un peu moins de la chaleur. Donc l'équipe d'organisation veille vraiment à faire des pauses. Il y a eu une pause ce matin pour que tout le monde puisse avoir une pause à l'ombre. Re-remplir ses gourdes avec de l'eau fraîche parce que les gourdes chauffent vite en plein soleil, et là à nouveau la pause de ce midi est prévue à l'ombre avec de quoi pouvoir s'approvisionner en alimentation, en eau, de pouvoir aller aux toilettes, parce que 700 personnes puissent aller aux toilettes, ça part anecdotique, mais bon voilà, on fait vraiment attention à ne pas laisser de déchets et avoir nos poubelles, mais avoir aussi nos toilettes. Le convoi est organisé avec toute cette attention-là.
Les verts qui sont perdus, les jaunes et les rouges.
c'est le convoi de l'eau qui passe, un super convoi avec plein de vélos, avec bon, un peu un comité d'accueil de bleu, un autre bleu, mais bon voilà, comme d'habitude, voilà. Donc on est toujours aussi bien accueillis, c'est super. Bravo à tous et puis bravo aussi aux organisateurs d'ici parce que voilà, on est super bien accueillis et voilà, ça fait plaisir. En fait, puis il y a des élus, donc ça c'est chouette parce que. En fait, on a été très très déçus en fait, de ce qui se passe en Deux-Sèvres. Hein. Et là, ben, on voit qu'il n'y a pas que les. Il y a des élus qui sont aussi contre l'accaparement de l'eau et qui défendent aussi l'eau potable et pour les habitants, et pas seulement pour les pompeurs d'eau pour le maïs ou pour les cochonneries. Qui, voilà. Donc c'est super, moi je trouve que. Ouais. Mais no bas arad.
Alors, tu es en train, tout en mangeant, en finissant ton sandwich, de réparer un vélo.
Ouais, effectivement, j'ai commencé en attendant que mon sandwich arrive et du coup, je l'ai mangé. Là, maintenant, je reprends tranquillement la réparation de mon vélo, ouais, effectivement.
C'est quoi le problème ?
Bah, y a eu un petit carambolage entre les enfants ce matin. Rien de bien méchant, mais du coup, le frein a pris un petit coup. Donc là, j'essaie de régler le problème pour que le vélo puisse repartir avec l'enfant. Cet après-midi, l'enfant va bien, maintenant il faut que le vélo aille bien.
Et comment ça se passe, comment ça s'organise tout ce qui est logistique autour des vélos sur le convoi?
Du coup, nous en tout cas pour la logistique de l'atelier, sur le convoi, tant que les vélos roulent, on ne répare pas parce que du coup on n'a clairement pas le temps de réparer vu que ça circule, mais on a des véhicules tracteurs et camions qui sont prévus pour récupérer les cyclistes et les vélos en panne. Et après sur chaque pause, du coup on est en lien avec des ateliers locaux qui viennent nous aider à réparer les vélos, donc les pauses du midi, les pauses du soir. Nous on a notre propre matériel aussi qui nous permet de réparer. Et là en l'occurrence c'est Vélo 41 exactement, merci, qui est venu nous aider. Donc ils sont venus avec leur atelier mobile pour là nous aider sur la place et ils reviennent ce soir au bivouac de ce soir pour nous aider à nouveau à réparer les vélos des gens qui ont eu des problèmes. Ouais.
Ouais, c'est parce que j'adore ma voiture et j'arrive pas à m'en débarrasser. Non, c'est j'ai trouvé sur la route et je me suis dit c'est marrant comme une plaque sur un vélo parce que c'est rigolo quoi, c'est tout con.
Il est très beau.
Voilà, merci, ça fait plaisir. Vas-y, bonne journée.
Mettre un maximum de couleurs sur les vélos pour décorer, faire en sorte que ce soit fun.
Par exemple sur le vôtre?
Ah moi j'ai mis carrément les genres de petites éoliennes, les moulins à vent là, de toutes les couleurs. Plus un drapeau.
Ce qui est important aussi, c'est les tracts, parce que du coup, les gens voient passer les caravanes, évidemment. Et puis en fait, on touche un peu tout type de public, des gens qui ne sont pas forcément sensibilisés, qui n'ont pas forcément beaucoup d'internet, qui ne sont pas forcément très au courant de ce qui se passe. Et donc, nous, on arrive et puis on leur explique ce que c'est. Et puis du coup, on a les tracts qui sont très bien faits avec nos revendications, avec pourquoi on est là, quel est notre but et pourquoi on se mobilise.
Non, mais moi, de toute façon, ce qu'on voit là, il me fait espérer que demain, il peut être bien. Parce que quand on se tient au courant de ce qui se passe, il y a moyen d'avoir quelques inquiétudes. Voilà. Et ça, c'est quelque chose de merveilleux qui se passe en vivant dans le convoi et en se disant ben oui, c'est possible que des centaines de gens qui ne se connaissent pas s'entraident comme si c'était des amis de longue date. Voilà.
Vous venez d'où pour chacun d'entre vous?
Alors, des Deux-Sèvres, on est parti de Sainte-Souline. Voilà.
Vous venez tous de Sainte-Souline?
Ouais, les environs.
Moi, Bordeaux. Je suis venu en train pour rejoindre le convoi.
Je viens de Nantes.
Et du Gard.
Du Gard.
Le départ de Sainte-Souline.
Alors, le départ de Sainte-Souline, à cause de ce qui s'est passé il y a 3 mois. Le
25 mars.
Voilà, le 25 mars. Moi, j'étais pas à Sainte-Souline. J'étais à quelques kilomètres à Mel. Parce que les élus de Mel ont accepté le mouvement et ont accueilli le mouvement pendant tout le week-end. Et ça a été merveilleux. Et donc, moi, j'étais à quelques kilomètres. J'ai pas connu la guerre. J'ai connu juste de la convivialité et de l'information. Il y avait des stands installés, il y avait eu des conférences, il y a eu un baltrade le soir. Tout ça, c'était gratuit. Il y avait des tivoli qui étaient montés dans la place de Mel. Il n'y a pas eu une bagarre, il n'y a rien eu du tout. C'était à quelques kilomètres. Et c'était aussi par rapport au mouvement et par rapport à ce sujet. C'est un pur scandale, c'est pas compliqué. De toute façon, déjà, c'est de l'argent public qui est destiné à enrichir les gens qui sont déjà très riches puisqu'ils ont d'énormes propriétés. Ils touchent des dizaines de milliers d'euros de subventions. Et là, maintenant, ils veulent s'approprier l'eau, c'est-à-dire se faire construire avec notre argent, se faire construire des grands réservoirs. Ils vont pomper l'eau. Et une fois qu'ils auront pompé l'eau et qu'elle sera sur leur propriété, l'eau sera à eux. Vous voyez ? Et elle ne sera plus dans le sol. Et il ne faut pas croire que c'est parce qu'ils prennent l'eau l'hiver, etc. Alors, normalement, ils devraient pomper l'eau l'hiver, mais ils vont vider la nappe. Et ça, c'est très grave, parce que du coup, ça fait un trou énorme, parce que la nappe, on devrait prendre l'eau qui est en plus. Ils font croire qu'ils prennent de l'eau en plus, alors que c'est pas vrai. C'est pas de l'eau qui est en plus. C'est de l'eau, ils vident la nappe. Ça va faire un grand trou, il y aura des effondrements. Après, il faut se renseigner. Vous verrez, à Vivonne, ils en ont construit une. Et bien, elle s'est effondrée parce que justement, dessous, c'était une nappe phréatique. Et donc elle est là. Il y a un trou énorme avec une bâche dedans. Et ça sera, c'est totalement inutilisable. Voilà, donc il faut se renseigner. Il faut chercher à comprendre. Voilà, parce que moi, si je vous raconte, vous n'allez pas me croire. Alors, donc du coup, cherchez à comprendre. Voilà, par vous-même. Voilà.
Quand tu dis que tu n'étais pas à la guerre, il y a peut-être 500 maximum personnes qui ont fait la guerre, lancé quelques cailloux, bref. Mais il y avait quand même plus de 29 000 personnes qui y étaient pacifiquement, quoi. Et voilà, on n'en parle pas de cela.
J'étais à Sainte-Soline et c'est vrai qu'il fallait un petit peu, on a été traumatisés par ce qui s'est passé, de voir tous ces jeunes qui ont été attaqués, qui sont partis en civière et dont les secours ne sont pas venus rapidement. Et je crois que ce qu'on voit, c'était aussi un peu pour panser les plaies de ceux qui sont blessés, mais de ceux aussi qui ont assisté à ce spectacle et qui disent des gens qui sont militants et qui se reçoivent des projectiles de guerre, c'est pas normal, c'est le pot de fer contre le pot de terre. Voilà.
Qu'est-ce que vous avez apporté comme pique-nique ?
Eh bien, une salade de tomates avec des pâtes de petit épeautre, des nectarines, une crêpe et du pain aux noix.
Et en quoi c'est important d'accueillir ? Peut-être forcément de participer à l'étape, mais...
Eh bien, bonne question. Pour moi, c'est important d'être là, voilà, pour montrer qu'on est là, qu'à Blois, il y a du monde, qu'on peut accueillir les gens. Sans forcément non plus pouvoir participer à l'étape cyclable, mais voilà, être aussi présent pour cet événement.
On s'est arrêté à Cousser les Bois devant une ferme usine et ça a été dit, mais là j'en remets une couche. Du coup l'idée c'est de faire un maximum de raffus autour du 7 octobre, donc c'est un samedi. Chacun et chacune est invité à organiser une myriade d'événements partout en France, dans ces territoires, pour notamment appuyer la demande de moratoire qui sera au même moment débattue à l'Assemblée nationale. Donc voilà, le 7 octobre, on peut d'ores et déjà penser à ce qu'on a envie d'organiser.
Donc on est au nord de Rennes et on est paysan. Mon mari est débardeur à cheval, donc paysan forestier en traction animale. C'est une activité comme la paysannerie qui implique toute la famille. Donc forcément, en tant que conjointe de paysan, je suis forcément impliquée sur la ferme et nos enfants aussi. Alors, je ne sais pas si c'est les enjeux pour un paysan, c'est les enjeux pour un citoyen. Peut-être que parce qu'on vit en contact avec la nature au quotidien, on réalise l'ampleur des dégâts déjà actuels. Et que un débardeur... il travaille avec les arbres et forcément le lien entre l'arbre et l'eau c'est forcément très important. Il travaille aussi sur des espaces naturels protégés et sur les plantes invasives qui sont enlevées en traction animale. Et ça c'est des espaces qui sont hyper fragiles. On voit très bien que l'évolution du climat sur ces zones-là, elles sont quand même très impactantes. Et on voit aussi que la crise... énergétique liée officiellement à la guerre d'Ukraine, elle a enlevé les crédits pour entretenir les espaces naturels, pour pouvoir aller chauffer les salles polyvalentes. Et ça, c'est un élément qu'on constate tous les jours. Et parce qu'on est paysan, on est en lien avec d'autres paysans et qui sont maraîchers et qui ont beaucoup plus besoin d'eau que nous. Après, nous, concrètement, l'eau, c'est quand même des chevaux qui boivent 50 litres d'eau à 100 litres d'eau par jour. Et que quand notre puits il est à sec l'été, Forcément, on est obligé d'aller sur le réseau et que ça fait de l'eau qu'on prend au réseau qui n'était pas destiné à ça et que financièrement, ça devient quelque chose qui est compliqué et notre puits, il est forcément à sec de plus en plus tôt. Nous, on est vraiment en campagne-campagne. Alors, est-ce que ça bouge vraiment? Ça dépend si je me place de notre vie de paysan, engagé, militant depuis longtemps. Et forcément, ça bouge parce qu'on est entouré de militants. Si je regarde les choses du point de vue de la mère de parents d'élèves, d'enfants au collège et des copains de mes enfants qui arrivent chez moi et les parents de ces enfants qui arrivent chez moi, c'est dramatique. Donc ça dépend vraiment où est-ce qu'on se place. Ce que je trouve hyper rassurant, c'est que ces adolescents qui sont dans une vie hyper liée au capital, au capitalisme, dans des pavillons très branchés sur les téléphones portables, quand ils arrivent chez nous, qui est une maison qui n'a pas de toilette à eau, qui n'a pas de radiateur, qu'on les fait camper et qu'on leur fait un feu de camp, ils trouvent ça génial. Et là-dessus, j'ai une vraie rassurance de dire qu'ils peuvent quand même s'ils sont si loin de la nature et du coup de la conscience de l'eau et du besoin d'eau, parce que je pense que c'est très lié, ils réalisent quand même dans leur corps quand ils vivent que d'être en lien avec l'élément naturel, ça leur fait du bien. Et c'est quelque chose qui est chouette. Donc j'espère qu'au fur et à mesure, ils vont pouvoir prendre conscience et s'impliquer, parce que ça passe que par là, il me semble.
Des pompages, je crois qu'on vous l'a dit et redit, mais bon, ça va bien, j'aime bien, voilà, avec une perturbation complète du cycle de l'eau et aux dépens du milieu naturel et de la fourniture en eau potable. Non, elle ne profite pas à l'agriculture, elle ne vise qu'à maintenir en sursis face au changement climatique un type de production intrinsèquement dépendant des intrants chimiques et incompatible avec un futur viable. C'est une fausse bonne idée. Il faut aller vers une sobriété de tous et préparer un accompagnement et un soutien de nos agriculteurs pour aller vers une agroécologie sobre en eau, en intrants, climato-compatible et respectueuse de notre santé et de l'environnement. Et pour finir cette intervention, je vais citer Gilles Clément, le plus célèbre des paysagistes, qui a d'ailleurs fait un jardin à Blois, qui s'est présenté comme éco-terroriste le 4 août 2023 sur France Culture. Je ne sais pas si vous avez entendu là.
Nous sommes tous des éco-terroristes.
Je vais le citer, Gilles Clément. Je fais partie d'un groupe de gens qui essaient de préserver le vivant, qui ne tuent pas, qui sont des gens qui s'orientent vers un changement de vie avec une gestion, une consommation, un modèle économique qui est différent. Et ça fait extrêmement peur à toutes les multinationales qui dirigent tout sur le monde, qui font même pression sur les législateurs pour faire des lois de consommation, des lois qui détruisent. Je me rends compte, donc je cite Gilles Clément, qu'on fait peur, c'est tout. On fait peur au marché. Voilà.
Un grand merci à vous trois.
Moi je m'appelle Léonie et je suis arrivée au Convoi de l'eau avec mes parents qui m'ont fait part de cette proposition et du coup je suis venue ici avec mes deux sœurs aussi.
Tu fais tout le convoi de A à Z?
Normalement on va s'arrêter à Orléans parce qu'après on va retourner un peu en vacances tous les cinq parce que je suis avec mon papa aussi.
Tu es en quelle classe?
Je rentre en quatrième.
Et l'écologie, j'imagine que c'est important dans ta famille, mais est-ce que par exemple au collège, c'est des choses dont vous parlez en cours, mais aussi avec tes amis?
C'est quelque chose que moi je vais avoir tendance à parler, pas forcément mes copains ou mes copines, mais des fois on arrive à avoir des discussions là-dessus. Et que moi je trouve que c'est, l'écologie c'est quelque chose de très important. Et qu'en même temps, je pense qu'il ne faut pas se figer que là-dessus, parce qu'on a quand même une vie devant nous. Et qu'il faut réussir à trouver cet entre-deux. Je vois d'autres gens, par exemple mon papa ou ma maman, qui sont complètement là-dedans et qui vont militer, ils vont à toutes les manifestations possibles et imaginables. Et que moi j'aime bien ça, mais qu'en même temps, faire que ça de sa vie, je suis pas sûre que j'aimerais faire ça.
Est-ce que tu pourrais me raconter un moment qui t'a marqué depuis le début du convoi, sur ce convoi ?
Alors le moment qui m'a le plus marqué, c'est au niveau d'un rond-point où il y avait beaucoup de policiers. Et moi ça me fait bizarre, c'est qu'un coup sur une manifestation, parce que moi j'habite à Rennes, les policiers à Rennes, ils vont nous taper dessus et ils vont nous empêcher de manifester. Et un coup, là, sur cette manifestation-là, ils nous aident à manifester et ils nous ouvrent la voie. Je trouve que c'est pas très logique. Dans une manifestation à Rennes pour les retraites, on est arrivé, je crois, une demi-heure plus tard parce qu'on avait des choses et du coup, on arrivait une demi-heure plus tard à la manifestation. Et du coup, on l'a pris à contresens, on s'est retrouvé avec les Black Blocs. Et j'étais avec ma petite sœur et ma maman. Et c'est quelque chose qui m'a marquée parce que j'entendais les gens, les cris des gens les hurlements de peur, de douleur, parce qu'il y avait des tirs de partout. Et que moi, j'étais au milieu de tout ça avec ma mère et ma petite sœur. Et de dire à ma petite sœur, cours pas. Et qu'en même temps, t'es tellement sous adrénaline que... C'est un peu compliqué aussi de garder son sang-froid. Mais ça, je pense que c'est quelque chose qui est vraiment important dans la société.
Et qu'est-ce qui vous a donné envie à chacun de militer ?
L'observation de la nature qui se dégrade, ça se démunit, ça se désertifie. Et de voir toutes les conséquences sur les gens qui, en fin de compte, sont encore plus précaires. Et qui vont avoir des impôts, ça va avoir des conséquences parce que tout ça aura un prix.
Et ça, c'est une très bonne question et je vais rencontrer des cyclistes en pédalant avec et je vais leur demander ça. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie de prendre conscience ? Voilà.
Donc, vous avez
la réponse ? Moi, je fais personnellement des enquêtes juste pour savoir. Quoi. Donc, qu'est-ce qui est grave pour vous dans la vie ? Qu'est-ce qui est grave ?
Voilà. Moi, je dirais que déjà, on a fait disparaître 80% des insectes en 30 ans. Si dans 30 ans, on fait encore disparaître les 80% des 20% qui restent, il ne restera pas grand-chose dans 30 ans. Quoi. Donc, si on réagit pas maintenant, ce sera peut-être trop tard.
Alors, j'ai voulu m'engager puisque je n'étais pas à Sainte-Soline fin mars, mais j'ai vu tout ce qui s'est passé. Et la façon dont ça a été traité, enfin, la façon dont ça s'est passé, c'était purement scandaleux. La façon dont ils ont complètement gazé, attaqué les manifestants qui étaient en large majorité complètement pacifiques. La deuxième chose qui m'a motivé, c'est aussi tout ce qui s'est passé en fait avec la réforme des retraites et le passage en force du gouvernement. Et c'est aussi une chose qui m'a encore plus incité à passer à l'action. Et puis également tout ce qui se passe avec l'accaparement des ressources naturelles, parce que tout le monde sait que les ressources ne sont pas infinies, qu'à un moment donné, à force de tirer dessus, il n'y en aura plus pour tout le monde. Donc quelque part, cette lutte de l'eau qu'on fait actuellement, c'est aussi pour préserver l'accès à la ressource en eau pour tout le monde, et pas uniquement pour quelques riches.
Alors clairement, les bassines, c'est dépenser du fric pour empêcher les nappes phréatiques de se remplir, alors que c'est l'inverse qu'il faut faire. Il faut faire en sorte que nos nappes phréatiques elles se remplissent dès qu'il y a un orage. Au lieu que ça parte à la mer, il faut que ça soit infiltré dans le sol. Et pour ça, il faut faire des baissières, des bassins d'orage, des mares qui retiennent l'eau des toitures pour que ça s'infiltre au lieu de partir à la mer. Il faut remettre de la vie dans les sols en mettant plus d'humus, plus de matière organique dans nos sols, ça c'est très important, sinon ça ruisselle. Et il faut planter des haies, et de préférence sur les courbes de niveau qu'on fait avec les baissières. Et ça c'est très efficace pour faire infiltrer l'eau.
Une baissière
c'est un fossé horizontal qui permet l'infiltration de l'eau et pas l'évacuation.
Oui, non mais il a raison, c'est fondamental, on prend le truc, on manque d'eau, et on va prendre le peu d'eau qu'il y a dans les nappes phréatiques qui est à l'abri, qui est, parce que en plus, qui est potable, et qu'on sort à l'extérieur, qui devient impropre à la consommation. Alors que ce qu'il faut faire, c'est faire des réserves. On n'est pas contre les retenues. Ils nous font croire que c'est des retenues en disant « Ouais, l'eau, elle part à la mer, il faut la... » Ben oui, faisons ça. Mais ils ne font pas ça. Ils ne font pas ça. Mais font... C'est l'inverse. Dans le Marais Poitevin, les irrigants, ils sont maîtres du Marais Poitevin. Parce que, attention, hein, si vous renseignez bien, vous découvrez que toutes les instances... On est dans un pays démocratique. Donc, pour faire quelque chose, il y a plein d'instances qui doivent donner leur accord. Eh bien, les irrigants, ils sont maîtres, ils sont majoritaires dans tous les organes. L'agence de l'eau, la FNSEA, la COP de l'eau, l'établissement public du Marais Poitevin, qui gère le niveau de l'eau. Ce qui fait que dans le Marais Poitevin, il suffirait qu'on arrête d'enlever les pelles. Ils enlèvent les pelles, pourquoi ? Pour pouvoir aller avec les tracteurs au printemps. Si on laissait les pelles comme c'était avant, il y aurait 20 cm d'eau. Ça fait la même quantité d'eau que toutes les bassines qu'ils veulent faire dans les Deux-Sèvres. Imaginez un peu. Et là, ça ne coûte rien. Hein.
Ce sont des solutions qui ne coûtent pas cher.
Mais oui,
alors
mais
que
oui.
Là, les bassines, les méga-bassines, c'est 75% qui donc financé par l'argent public.
Et puis ça ne résout pas le problème de remplir les nappes. Quoi. Donc si on arrive à faire des baissières, des bassins d'orage pratiquement partout, ça permettrait donc de remplir les nappes. Ça limiterait les inondations, vu que toute l'eau ne partirait pas dans la rivière. Ça remplirait la nappe, donc quand la nappe phréatique est haute, la rivière est alimentée par résurgence avec de l'eau filtrée, propre. Ça limite la pollution, ça limite les assecs, les périodes d'assecs, soit il y en a plus, soit il y en a beaucoup moins. Donc c'est l'inverse qu'il faut faire, il faut remplir les nappes, il ne faut pas les vider. Voilà, il n'y a pas plus simple.
On m'a dit de venir vous voir, que vous êtes le crieur.
Oui, je m'amuse depuis des années à dire des textes ou à récolter des messages lors de fêtes, lors de manifestations, et ensuite on recrie l'ensemble des messages des gens. Bah, j'en ai quelques-uns d'ailleurs, je peux vous en crier.
Oui.
Alors bon, on va prendre au hasard, on va bien voir ce que ça donne.
Allons-y.
Très émouvant de voir le soutien des habitants sur les routes. Merci pour l'orga. Darmanin, ta colère est suspendue au palais, et nous, c'est libres et fiers, qu'on soulève la terre. Ce qui ne me tue pas, me rend têtu. Je lutte, donc je suis. Je dormirai quand on sera mort. Si tu as le moral dans les chaussettes, avec nous viens faire la fête pour combattre la bête, et de l'eau sortir la tête de respect, de liberté. Honorable quête.
Et comment vous les récoltez ?
Bien, quand on est en train d'attendre pour déjeuner le matin ou pour le midi ou moins des repas, on distribue des petits papiers aux gens. Ils savent pourquoi. Et puis après, il y a une petite boîte bleue. Ils déposent leur message. Et le soir ou le lendemain, on leur restitue leur message. Il y a un message qui était assez extraordinaire, mais qui est un peu connu. On entend le bruit de bottes, mais le pire, c'est le silence des pantoufles. Et c'est vrai que quand on est en pré-fascisme, c'est le silence des pantoufles qui est plus dangereux que le bruit des bottes.
Vous parlez de pantoufles et vous êtes d'un certain âge. Qu'est-ce
oui.
qui vous pousse à lutter encore de cette
Parce que je me suis j'ai toujours été dans l'action pour le vivant, regarder vers l'avenir. Ma profession, c'était instituteur, c'est donc préparer à la... C'est vivre le présent et travailler pour l'avenir. Et ensuite, je suis papa, je suis aussi grand-père. Mon premier petit-fils a 21 ans et mon dernier, il a 10 mois. Et je suis très, très inquiet parce que je sais que dans 20 ans, je ne serai plus là. Mais eux, comment vont-ils vivre, quoi ? Comment mon petit-fils de 21 ans ou ma petite-fille de 19 ans peuvent dire « c'est quoi demain ?» Je dirais que le fait de lutter, ça fait qu'on est moins angoissé peut-être que si on est simplement spectateur. Et en même temps, par la lutte, on peut entendre l'ambiance. C'est des rencontres formidables, c'est de la joie, c'est de la fête, c'est de l'humour. Et c'est très combatif et on a vraiment pas peur des forces qui écrasent le pays, c'est-à-dire le capitalisme. Hein. Alors, autrefois, on parlait de gardien de la paix. Aujourd'hui, on parle de force de l'ordre. Ça veut dire quelque chose. Et la question, c'est de quel ordre ? L'ordre des milliardaires qui nous font crever dans les HLM ? Hein ? Les gens, là, comment ils vont faire, là, avec des bâtiments non isolés ? Quand il va faire 40 degrés, 50 degrés ? C'est eux, c'est ceux qui ont le moins de moyens qui vont souffrir le plus, qui seront les premières victimes. Et donc, on lutte tous ensemble. Il y a un slogan qui était fin de mois, fin de climat, même combat.
C'est comme ça aussi qu'on imaginait ce qu'on voit de l'eau. Et je vous le redis, ce genre de prise de parole et ce qu'on est en train de montrer là, et le traitement médiatique, je ne sais pas si vous êtes un peu connecté, mais ça vient complètement.
Vous êtes arrivé, nous vous attendions, nous étions ensemble, nous sommes ensemble, et j'ai pleuré. Enthousiasme, des yeux pétillants réveil, et des sourires dans les côtés. Soyons ensemble. J'avais envie de pleurer en voyant tous ces gens en vélo et tracteurs.
Convergence,
c'était si beau. Diversité. Ce respect qu'on voit est exceptionnel. Quoi de mieux rêver comme première expérience militante que ce merveilleux convoi de l'eau. Merci à tous.
Et on va en parler tous ensemble. Nos bassins.
Notre petit diamant, notre belle